Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Des Livres et Délires. Nous sommes ravis d'être ensemble avec Françoise Ducret. Bonjour Françoise.
Bonjour Marie.
Bénédicte Djousse qui est avec nous. Bonjour Bénédicte. D'accord. Et bonjour Christophe Laurent.
Bonjour Marie, vous allez bien?
Voilà, pardon. Christophe Laurent, bonjour, a mis un tote bag sur sa tête. Franchement, c'est hilarant, j'ai l'impression d'être à l'école et d'être la maîtresse. Et Bénédicte ne s'en remet pas. Et ça glousse. Et ça ne dit même pas bonjour aux auditeurs.
Bonjour les auditeurs.
Ah bon, bonjour tout de même.
Quelle misère.
Quelle misère, mon Dieu. Alors, nous allons parler, avec Bénédicte.
Ah bah oui.
C'est comme ça au tableau.
Ah d'accord, punition.
Punition, rien n'est noir. De Claire Berest chez Stock.
Oui, je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Peut-être passer à quelqu'un d'autre.
J'avais parlé d'un roman qu'avait écrit Claire Berest avec sa sœur Anne Berest sur son arrière-grand-mère Gabrielle, qui était la femme de Picabia.
Oui, je
c'était
m'en
leur arrière-grand-mère, mais elle ne l'avait découvert que très tardivement. Et c'était une histoire assez incroyable. J'avais adoré. Et donc quand j'ai vu que Claire Berest s'intéressait à l'histoire de Frida Kahlo, eh bien je me suis jetée sur ce roman et je n'ai pas été déçue. Donc l'histoire de Frida Kahlo, c'est vrai que tout le monde la connaît. En plus, il y a eu un très bon film sur elle qui a été fait, qui s'appelle Frida avec Salma Hayek. Et pourtant, je trouve que c'est une histoire qu'on ne se lasse pas finalement de s'entendre raconter. Alors pourquoi ? Parce que c'est une histoire quand même, l'histoire de Frida Kahlo est totalement folle et qui a beaucoup du mythe finalement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de hors norme, hors de notre portée, et en même temps elle finit, cette histoire nous révèle forcément quelque chose sur nous-mêmes, et elle finit, enfin moi je trouve, par résonner en nous. Donc Frida, pourquoi une femme hors du commun ? Parce que tout dans ce qu'elle est et de ce qu'elle vit est romanesque et tragique. Donc, on le sait, elle a un accident quand elle a à peine 18 ans. Il y a un tramway qui rentre dans le bus où elle se trouve. Et alors là, elle a la colonne vertébrale brisée, le col du fémur rompu, d'innombrables fractures et une rampe en fer qui la transperce et qui ressort par le vagin. C'est quand même déjà...
Non.
Oui, c'est quelque chose.
Moi, je ne connais pas du tout
l'histoire.
Voilà,
donc écoutez. Ensuite, donc, elle est bloquée pendant des semaines sur son lit. Elle porte un corset.
C'est horrible.
Et immobilisée. Non, mais c'est absolument abominable. Immobilisée, elle demande à son père de lui installer un miroir au-dessus de son lit, et elle dit « puisque c'est ça, je peindrai ma nouvelle réalité. Ma nouvelle réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est moi, je me vois moi. » Et elle va commencer à peindre. Alors même que rien ne la prédestine à la peinture. Et ça aussi, c'est intéressant. Parce que c'est
la chanson de Jennifer.
C'est pas l'histoire, si vous voulez, d'une vocation. Elle avait bien d'autres projets. C'était une jeune fille brillante. Elle voulait devenir médecin. Elle a été une des premières à intégrer une grande école qui n'était auparavant réservée qu'aux garçons. Donc cet accident, ça va être à la fois une sorte de cauchemar évidemment et de malédiction, et en même temps peut-être d'une certaine façon son salut. Et moi, ce que je trouve passionnant chez l'histoire de Frida Kahlo, c'est qu'elle est, si vous voulez, de ces êtres qui ne connaissent pas la médiocrité, la demi-mesure, la compromission, la tiédeur. Il y a quelque chose de fou. Elle est une sorte de réceptacle de terreur et de douleur. Et en même temps, elle a une envie de vivre, mais de vivre peut-être encore plus intensément.
Et puis son histoire d'amour incroyable.
Et alors, on y arrive parce que finalement...
Excusez-moi, c'est l'histoire de la vie de Frida Kahlo, le roman.
Alors, Claire Berest en fait a choisi de se concentrer sur son histoire d'amour avec Diego Rivera, donc ce peintre extrêmement connu. Mais elle n'évoque que 10 ans de leur relation, de 1928 à 1938. Et là encore, c'est une relation complètement hors norme, c'est un amour fou, et c'est Frida Kahlo quand même qui choisit Diego Rivera. C'est-à-dire qu'un jour, elle a 20 ans, donc c'est après l'accident, elle arrive avec un tableau devant lui. Lui, il est déjà un peintre extrêmement reconnu, c'est le peintre du peuple, c'est une espèce d'ogre comme ça, de masse imposante et fascinante, mais en même temps, il est pétri de contradictions parce qu'il refuse pas les honneurs qu'on lui propose aux États-Unis. Et elle se plante devant lui comme ça avec son tableau, et elle lui dit « Voilà, je vous laisse quelques jours et vous me donnez votre avis sur mon tableau. » Et ensuite, et c'est vrai que c'est Claire Berest, elle écrit « Une paire si mal assortie ». Et il faut que vous regardiez une photo de Diego Rivera et de Frida Kahlo. C'est hallucinant. Il est grand, énorme. Elle est toute menue, fragile, petite, etc. Il y a quelque chose d'absolument incroyable. Et en même temps, ce que je trouve fascinant dans leur relation, c'est l'espèce d'équilibre intellectuel qu'il y a entre les deux. Parce qu'il est un peintre extrêmement connu et ils ne font pas partie de ces couples où, par exemple, l'homme va vampiriser la femme. Très tôt, Diego Rivera dira que Frida a sans doute beaucoup plus de talent que lui. Mmh. Et il l'encourage à être celle qu'elle veut être. Il est fier d'elle. Il l'admire et il est prêt même à s'effacer parfois derrière elle. Et elle, ce qui est fou, c'est que d'une certaine façon, elle peint presque malgré elle. Et si Diego Rivera y consacre tout à la peinture, elle... Sa passion, c'est d'abord Diego Rivera. Et ce que je trouve passionnant aussi chez Berest, c'est que je parlais tout à l'heure de l'urgence de vivre et elle traduit parfaitement ça avec ce style, moi, que j'aime énormément de Claire Berest. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça, de très explosif, j'allais dire, de parfois chaotique, qui correspond vraiment à la personnalité de Frida Kahlo, parce qu'il y a quelque chose en elle comme ça de baroque. Et elle choisit pour ses trois premiers chapitres, enfin il y a quatre chapitres, mais le quatrième c'est une sorte de conclusion, elle choisit les trois couleurs primaires. Et c'est pas juste, ah bah oui, je vais choisir ça parce que je vous parle d'un peintre. Non, c'est parce que dans ces couleurs, il y a quelque chose comme ça aussi de vif et de franc et que ça correspond à la personnalité de Frida Kahlo.
Bon, vous êtes emballé, c'est dans aucune liste ce livre de Claire Berest.
Il faudrait que je vérifie. Je crois qu'il est dans une liste, mais moi ce personnage, voilà, où si vous voulez, tout chez Frida est à la fois son salut et sa damnation. Et moi, Berest nous raconte le parcours comme ça de Frida Kahlo de l'intérieur. Et je trouve ça fascinant. Alors, si vous ne la connaissez pas, vous allez être saisi de ce qu'il y a de fou dans cette histoire. Et si vous la connaissez, ben, je vous disais, comme les mythes qu'on aime ressasser, qu'on aime entendre raconter plusieurs fois, vous allez être ravis de relire l'histoire de Frida Kahlo.
Oui, moi, je voulais dire qu'effectivement, c'est une histoire qui inspire énormément les romanciers. Il y a quelques années, il y avait eu un livre comme ça aussi, intitulé Roman, de Gérard de Cortance.
D'accord.
Sur les amours entre Frida Kahlo et Léon Trotsky, lorsque Trotsky arrive au Mexique. Ouais. Donc là aussi, il y avait eu... Il y a évidemment dans ce livre un portrait incroyable de Frida Kahlo, de son œuvre et de ses ses amours.
Et dire peut-être que le titre de ce livre, qui a l'air formidable, et merci parce que vous nous avez vraiment donné envie, Bénédicte, est tiré d'un extrait en fait.
Oui. Hein, oui, parce qu'elle utilise énormément, évidemment, les carnets, enfin les journaux intimes de Frida Kahlo.
Vous voulez l'extrait ?
Et lisez-le si vous voulez.
À force de vouloir m'abriter en toi, j'ai perdu de vue que c'était toi l'orage, que c'est de toi que j'aurais dû vouloir m'abriter. Mais qui a envie de vivre abrité des orages ? Et tout ça n'est pas triste, mi amor, parce que rien n'est noir, absolument rien.
Voilà. Ce qui vous voyez, c'est formidable parce que c'est l'extrait que je voulais vous lire. Voilà.
Mais non,
c'est formidable. Vous l'avez beaucoup mieux lu que moi. Et voilà, on n'a jamais envie de s'abriter des orages parce que voilà, il est infidèle. Mais ça, il ne lui cachera jamais ses infidélités. Et c'est terrible d'être amoureuse d'un personnage comme Diego Rivera. Mais voilà, ils sont très mal assortis. Même en même temps, il y a une espèce d'évidence. Non, c'est une en plus. Voilà.
Ma merveilleuse Bénédicte, je vous ai spolié votre sortie.
Mais non, vous l'avez beaucoup mieux. Moi, j'aurais encore bafouillé.
Sous l'émotion. Voilà, sous l'émotion. On ne peut pas s'abriter des orages. On veut être foudroyé.
Mais oui,
voilà. Trop d'émotions pour Bénédicte.
Elle est grossière, elle est crapuleuse, tout ça.
Merci beaucoup. C'est publié chez Stock. Rien n'est noir de Claire Berest. Et donc, Bénédicte, vous le conseille. Merci beaucoup. Dans un instant, nous parlons avec Françoise de la maison d'Emma Becker chez Flammarion.
Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vie vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai fait, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai fait, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse. Moi je l'ai fait, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde lui de paillettes et me réduit au chaos.
Allez, bienvenue si vous nous rejoignez dans Des livres et des lires sur RCFM. Françoise, vous avez choisi La maison d'Emma Becker, paru chez Flammarion.
Oui, alors un livre dont on a beaucoup parlé, mais que j'avais très envie de lire, malgré tout. Emma Becker, c'est une romancière, hein, toute jeune, assez jeune du moins. Et pour son troisième roman, eh bien, elle décide de s'enfermer dans une maison close et d'en faire un livre. Un livre qui est à la fois un reportage et puis une exploration de sa propre intimité. Alors, Emma Becker, elle a toujours eu une fascination pour le monde de la prostitution. Au départ, et quelque chose de très littéraire, puisqu'elle l'aborde pour la première fois à travers les romans du 19e, chez Maupassant et chez Zola. Mais vous le savez, en France, les maisons closes n'existent plus. Or, un jour, elle débarque en Allemagne, elle a des origines allemandes, et là, elle s'aperçoit que les maisons closes existent encore. Et qu'elles font partie totalement du paysage urbain.
Donc elle s'est installée là-bas, s'est installée à Berlin.
Exactement. D'accord. Pour d'autres raisons, je pense. Elle ne le dit pas dans le livre. Et quand elle s'installe devant la porte d'une maison close, qu'elle voit ses filles arriver, tout ça, ça lui donne évidemment envie d'écrire un livre sur ce monde qu'elle côtoie déjà dans la littérature et qui la fascine. Et elle décide donc de rentrer dans une première maison close, puis dans une deuxième. Cette expérience, en fait, c'est un objet littéraire, hein, parce que le roman, c'est dans cette vie, on s'invente un personnage, on s'invente un nom quand on est prostituée. Et c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire, on est dans la vraie vie. Mais quand elle rentre dans la maison close, elle prend un autre nom. Elle prend le nom de Justine, donc on voit évidemment l'allusion à Sade notamment. En fait, elle voulait aussi apprendre des choses sur le désir féminin, sur les mécaniques des rapports entre les hommes et les femmes. Et elle n'est pas la seule dans la maison close à avoir choisi ce métier. Hein. Il faut dire que les filles ne sont pas enfermées. Cela dit, tout n'est pas rose non plus, puisqu'elle fait d'abord une première maison close où les conditions de vie sont assez difficiles et elle arrive dans ce qu'elle appelle la maison, qui est vraiment le lieu merveilleux. D'ailleurs, elle l'appelle la maison et ça donne le titre au livre, ce qui fait que pour elle, c'est comme sa maison. Alors, les filles n'y habitent pas. Hein, elles prennent le métro le matin pour aller travailler dans cette maison. Et puis donc...
c'est hallucinant, vous vous rendez compte quand même, cette fille. Pardon, je vous interromps, mais ça me paraît
incroyable parce
tellement
que...
fou à 30 ans d'aller à Berlin, de s'installer dans une maison close, de travailler... Parce qu'elle parlait de reportage, mais c'est plus du reportage dès lors que vous-même, vous travaillez dans la maison close.
C'est incroyable. C'est pourquoi... bien souvent dans le livre, on la sent quand même en danger.
Mais bien sûr.
Se dit, comment va-t-elle finir? Parce que c'est une fille, je pense, qui est très libre d'esprit. Donc, je pense qu'elle n'a pas vraiment de tabou, mais on se dit comment va-t-elle sortir de cette expérience. Ouais. Et puis surtout, c'est un monde. Alors, je disais, la maison, les filles sont assez protégées. Mais, si vous voulez, voilà comment ça fonctionne. Il y a des tarifs. Les filles sont rémunérées selon les choses qu'elles font aux clients. Il n'y a pas de Mac. Non, non,
voilà,
non, non. Il n'y a pas de Mac, mais il y a malgré tout une propriétaire de la maison hein, qui, voilà, elle prend l'argent et ensuite elles ont un salaire, voilà. Qu'elles déclarent au fisc, voilà, c'est bien encadré.
C'est une employée. Quoi,
oui, voilà, mais ce sont quand même des travailleuses indépendantes parce que elles n'ont pas des horaires fixes, si vous voulez, comme des employées. Oui. Elles choisissent aussi. Les personnes qu'elles vont, les hommes qu'elles vont accueillir.
Est-ce qu'à travers cette expérience, vous disiez, elle questionne le désir féminin, et j'imagine bon, le désir masculin également, mais est-ce qu'elle questionne la féminité, le genre? Est-ce qu'elle est là-dedans aussi?
Oui, parce que oui, effectivement, ouais. Elle en parle pas mal, de façon allusive. Elle montre comment on est une femme et comment on peut être un homme. Mais si vous voulez, ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle intellectualise beaucoup les rapports humains et la féminité, la masculinité. Vous voyez, elle dit moi le sexe m'attire, la prostitution m'attire. Mais d'un autre côté, elle dit aussi mais le sexe c'est pas l'essentiel dans tout ça.
Ah bon.
Donc c'est assez paradoxal et très intellectualise beaucoup. C'est pourquoi elle en arrive à dire ça, quoi, parce que nous on resterait effectivement sur la surface des choses. Bon, et donc elles choisissent leurs clients. Elles les veulent bien ou pas. Elles ont et bon, alors le livre, je vais vous lire la première page parce qu'elle est très belle. Et le livre donc commence par un souvenir. Elle a arrêté la maison, elle a arrêté la prostitution et vous allez voir, lui reviennent les souvenirs qu'elle a eus dans cette maison. Alors ensuite, tous les chapitres, c'est un livre assez épais, hein, assez dense, tous les chapitres vont être aussi l'occasion de dresser des portraits, de faire des portraits d'hommes et de femmes.
Est-ce que c'est érotique?
Oui, mais
pas
autant que l'autre.
Non, mais l'autre, il était pornographique. Un peu.
Voilà.
Celui de la semaine dernière.
Oui, voilà.
Coup de vent.
Attendez, il faut que je retrouve, évidemment. C'était exactement cette odeur, l'odeur de la maison. Hein. C'est exactement cette odeur qui est restée piégée dans le dessus de lit. Cette merveille que j'ai achetée 5 euros, une misère, lorsque la maison a dû fermer et que la patronne a choisi de tout nous vendre pour une bouchée de pain avant que les tenanciers des autres bordels viennent farfouiller dans nos affaires. Je l'ai rapporté chez moi, ce dessus de lit, comme un chiot abandonné sur l'autoroute, et j'ai longtemps prétendu ne pas pouvoir le laver parce que ma machine était trop petite. Mais ce refus tenait tout entier dans mon angoisse de perdre à jamais cette odeur. Sans elle, il ne resterait qu'une étoffe d'un goût douteux, trop grande pour tout, un amas de tissu encombrant que je ne me résoudrais jamais à jeter. Et le voilà, avec son grand pli au milieu, qui, à moins d'être parfaitement ajusté, donne à mon matelas un air de guingois. À côté du petit, son fils, puisqu'elle a eu un fils après, occupée à vider son placard, je me jette dans les plis encore odorants, la tête tournant comme une toupie au milieu des souvenirs colorés. Il y a les effluves de lessive, bien sûr, et je pourrais retrouver la même marque si j'avais le temps. L'énergie et le manque de scrupules nécessaires pour imposer à ma famille le fumet familier du bordel où j'ai bossé pendant 2 ans. Mais comment y apporter la touche acide des hommes qui transpirent et des filles qui se tortillent là en geignant, la sueur, la salive et le reste des sucs humains qui ont séché dans les fibres et la note délétère, insupportable parfois, du savon bleu que les mecs utilisaient dans la salle de bain.
C'est hallucinant.
Alors, la première phrase, les premières phrases sont hallucinantes, mais et donc on comprend après pourquoi c'est tout un univers. Je ne sais pas si vous avez vu la Polonide.
Ah oui.
Eh bien, ça ressemble, ça m'a fait penser à ça. Vous savez, des images, les femmes qui se lavent, qui sortent nues avec leur serviette accrochée autour de la taille. Enfin, toutes ces ambiances qu'elle adore. Ces rapprochements de corps, on se prête des parfums, on s'embrasse, on se cajole. Et
justement,
c'est ça qui lui plaît, cette espèce de phrase. fraternité entre toutes
ces filles.
De sororité, pardon.
Et parce que ce qui lui a été, moi je ne l'ai pas lu, hein, mais j'en ai beaucoup entendu parler, et ce qui lui a un peu été reproché, c'était une certaine idéalisation du monde de la prostitution.
Alors non. Moi, je l'ai pas vu comme ça, parce que ce qu'elle dit, c'est que la maison, c'était quand même très spécial, cette maison-là, parce qu'il y a d'autres bordels où les gens, où les femmes sont traitées beaucoup moins bien.
D'accord, c'est un peu le haut niveau,
donc,
là.
Oui, c'est un peu le haut de gamme. Et puis, ça tient aussi à la tenancière, à la personnalité de la tenancière, qui arrive à créer cette ambiance.
Ça s'appelle La Maison, c'est chez Flammarion, et c'est signé
bon,
Emma Becker.
Bon, j'ai pas pu te dire, mais vraiment, il y a plein de choses dans ce
si
livre.
Vous voulez, vous pouvez faire une émission toute
et puis,
seule.
Attention. Non, puis attention. Écoutez, allez. Deux secondes. C'est une œuvre littéraire. C'est vraiment une très belle écriture, vous l'avez.
Mais on l'a entendu, on l'a entendu. Merci beaucoup. Moi, j'ai très envie de le lire. Et je regrette que ce livre n'ait pas été le livre commun. Christophe Laurent, vous nous parlez de l'agence de Mike Nicol à la série Noire.
Oui, Marie, tout à fait. Ça aurait pu être aussi le livre commun, mais il faisait plus de 500 pages.
Ah non, ça, c'est pas possible.
Voilà.
C'est le cas.
Tout le boulot que vous avez.
C'est le cas également de La Maison.
La Maison, presque 400 pages.
Je me suis presque sacrifié, mais ce n'était pas un sacrifice. Donc, l'agence de Mike Nicol. Mike Nicol est un auteur sud-africain. Et là, il tombe dans le polar, mais dans le livre d'espionnage. Enfin non, il a toujours été dans le roman noir, mais là, il fait un premier livre, peut-être un premier livre, je n'ai pas tout lu de lui, d'espionnage. Et les livres d'espionnage, finalement, c'est assez rare de nos jours, malgré tout ce qu'on peut dire. Et il s'en passe, pourtant on a lu Dove Alphon qui était très bien, mais on voyait beaucoup que c'était la Chine et la Russie. Mais les auteurs sont peu emparés de l'espionnage moderne. Heureusement, donc, Mike Nicol s'y met. Et là, en fait, ce qu'il veut nous dire à nous, petits blancs occidentaux, c'est que l'Afrique du Sud n'est vraiment pas, à moins pour ceux qui connaissent le sujet, n'est vraiment pas le paradis arc-en-ciel que l'on a voulu nous vendre et que l'on nous vend encore depuis Monsieur Mandela. Autrement dit, depuis le décès de Mandela, ça va de mal en pire en Afrique du Sud. Et là, il nous présente un président, alors certainement qu'il doit tirer ses informations des divers présidents qui ont succédé à Mandela. Un président autoritaire, caractériel, polygame. À la limite, ça ne serait pas très grave, mais en fait, le mec a une espèce de méchanceté en lui, de dureté, y compris avec son peuple. Et en fait, surtout, ce dont on se rend compte, c'est que c'est un homme qui a gardé des biens et notamment des intérêts dans une mine d'or en Centrafrique. Donc, comment vous dire, c'est un petit peu à l'encontre de toutes les valeurs que défendaient l'ANC et Mandela, au point que cette mine d'or, il veut tellement la protéger qu'il fait indirectement, il organise un attentat contre un des colonels de Centrafrique qui est réfugié chez lui. Ça commence par cette scène merveilleuse, à la John Woo, vous savez, un peu polar asiatique, où il y a un commando qui est surveillé par le chef d'équipe, c'est-à-dire un colonel du président, qui va à la sortie d'une église et qui va flinguer le président avec sa famille. Sauf que ça ne se passe pas super bien, ils ratent un peu leur coup. Et là, évidemment, comme dans tous les romans d'espionnage, c'est assez difficile à expliquer les romans d'espionnage, parce qu'il y a toujours 45 tiroirs. Plus facile de faire un Rubik's Cube avec des moufles que d'expliquer vraiment bien un roman d'espionnage. Toujours est-il que arrive ce fait divers, la femme du président qui a échappé à l'attentat demande à un détective privé de savoir d'où ça vient. La femme du détective privé travaille pour l'agence, la SSA, c'est-à-dire le service de sécurité du pays, qui mène une enquête avec une mannequin sur un trafic d'enfants organisé par le fils du président.
Il faut prendre des notes quoi, pendant la lecture.
Mais c'est souvent ça, les livres d'espionnage.
Mais je vais pas vous dire, regardez, moi j'entoure les bonhommes, j'entoure les personnages.
C'est vrai.
Ah oui, non, celui-là est important. Il faut que je...
on est obligé, oui.
Donc sur 500 pages, on vous dessine une Afrique du Sud, mais hyper violente. D'ailleurs, je crois que c'est le 35e pays le plus violent de la planète. Et il y a un lien avec la Centrafrique, qui est le 10e pays le plus violent. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que c'est vraiment la grosse galère et que, si vous voulez, l'héritage de Mandela a été confisqué. Parce que ce président vole la jeune maîtresse de son colonel des services secrets. Il la présente comme sa quatrième femme. Il fait une fête immense dans un palais présidentiel qui est absolument hallucinant, où il y a champagne pour tout le monde. Et on sait que l'Afrique du Sud, c'est le pays, je crois, qui a le record en termes de différence entre les plus riches et les plus pauvres. Donc c'est assez dérangeant. Et là-dedans, petit à petit, on voit qu'il y a des gens au sein de l'appareil d'État qui vont se lever contre le président. Il y a peut-être un attentat qui se prépare. Enfin,
c'est bien écrit.
C'est très bien écrit, c'est passionnant. C'est traduit par Jean Hesch, qui est de l'anglais, c'est traduit. C'est pas du sud, c'est pas de l'Afrikaner. C'est traduit par Jean Hesch, qui est un très grand traducteur, qui avait déjà traduit Seth Greenland notamment.
Ah oui.
Voilà. Ouais. Et je vous promets, c'est une vision incroyable de l'Afrique du Sud et c'est passionnant. C'est
ça
passionnant.
S'appelle L'Agence de Mike Nicol et c'est à la série noire. Et il faut absolument, absolument le lire. C'est 500
très
pages.
Bon. C'est très, très bon.
Donc merci pour ce sacrifice qui n'en était pas un au final. Christophe Laurent, la semaine prochaine, on parle de quoi? On ne sait pas encore.
Il y a débat.
Mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur nos pages respectives Facebook ou encore sur Délivrer et Délire ou sur France Bleu RCFM. Nous sommes toujours là à vos côtés. Un petit oui, mais rajoutez.
Non, je voulais dire que j'aurais voulu vous parler du Nicolas Mathieu qui est sorti chez Inoctavo. J'aurais adoré. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé en librairie. Et je l'ai commandé, je ne sais pas si je vais le recevoir. Voilà,
donc quand on sort,
c'est mon livre commun de la semaine prochaine, vous exagérez.
Mon livre perso. Bon, écoutez, on peut en faire un commun éventuellement. On ne va pas raconter notre cuisine ici, mais ça paraît hallucinant en effet qu'un auteur qui a reçu le Goncourt fasse paraître un livre et qu'on ne puisse pas le trouver en librairie. C'est compliqué, mais en même temps, on sait que le métier de libraire est extrêmement compliqué.
Surtout quand il dépend des distributeurs.
Tributaire des distributeurs, ce qui est le cas ici. Et voilà, c'est pas facile. Nous, on est une petite région et on aimerait que ce soit un petit peu plus fluide, voilà, pour pouvoir lire des livres. Surtout, et surtout, vous en parlez, vous donnez envie.
Ça nous éviterait. Moi, ce que je veux pas, c'est que les gens commandent, par exemple, sur Amazon. Alors, plutôt que de commander sur Amazon, il y a un site très bien qui s'appelle Librairie Indépendante où vous rentrez le nom de votre roman et toutes les librairies de France qui peuvent l'avoir, c'est marqué et vous ne payerez pas plus cher. Ce sont des librairies, des vrais libraires qui payent leurs impôts en France, qui font travailler des
et qui vous envoient donc le livre.
Oui, qui vous envoient le livre. C'est-à-dire avec des vrais salaires. D'accord. Donc plutôt que
via
de commander,
les librairies,
plus que de commander chez Jeff Bezos, vous commandez sur la librairie indépendante.
Merci beaucoup Christophe Laurent, merci Bénédicte Just, merci Françoise Ducré, merci Alicia qui réalisait cette émission et à la semaine prochaine dans un instant, c'est Sapiens avec Fabrice Fenouillère et Jean-Michel Fratici. Beati gli impidi con i salmo a vera.